France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le phénomène, c'est arrivé près de chez vous, le film qui a fait exploser le cinéma belge. En mai 1992, au Festival de Cannes, un phénomène agite la croisette. On se bat pour assister aux projections d'un premier film dont tout le monde parle. Il est le fruit de la collaboration de trois jeunes gens. Ils ont à peine 25 ans, viennent de sortir d'une école de cinéma et proposent du jamais vu. Ce film s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Et c'est un faux documentaire qui dénigre la télépoubelle, celle pour laquelle des gens feraient n'importe quoi pour être filmés, et celle pour laquelle d'autres, en face, feraient n'importe quoi pour rapporter de bonnes images. Violent, le film fait polémique et divise les critiques. Bref, il se coud. Et depuis, il est devenu culte. Ses répliques font partie du patrimoine du cinéma francophone. Oui, francophone, parce que c'est arrivé près de chez vous, est un film 100% belge. Il est aussi la révélation d'un acteur qui va devenir l'un des plus bankable du cinéma, Benoît Poulvorde. Notre invité aujourd'hui, André Bonzel, l'un des trois réalisateurs du film. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard. Chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Étienne Bertin et David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Eh bien, j'ai le plaisir de déclarer l'ouverture du 45e Festival du cinéma international. Bonne soirée.
Nous sommes le jeudi 7 mai 1992 et un parfum de scandale se répand déjà sur la croisette à l'ouverture de ce 45e festival. Le film Basic Instinct ouvre la compétition. Il est signé du Hollandais Paul Verhoeven. Les critiques multiplient les adjectifs pour le décrire. Racoleur, scandaleux, malsain, torride. Les mêmes mots sont accolés à son actrice principale, Sharon Stone, qui dira de cette édition cannoise « J'y suis arrivé comme une petite actrice américaine, j'en suis parti comme une star internationale. » Mais deux jours plus tard, sans pour autant éclipser le premier, un autre événement embrase la croisette. Cette fois, c'est d'un film belge qui est au centre de l'attention et dont on parle. Lors de la première projection, le 9 mai, il reste une quinzaine de places libres dans la petite salle de la Semaine de la Critique, une compétition parallèle. Les journalistes cinéma les plus pointus se passent le mot. Il faut absolument voir ce film, c'est une bombe. Dès le lendemain, les projections se font à guichet fermé. Et même, des heures éclatent parmi celles et ceux restés sur le carreau devant l'entrée de la salle. Les trois responsables de cette folie, les réalisateurs du film, n'en reviennent pas. Comme ils en témoignent devant les caméras de la RTBF, la télé publique belge. Deux chevelus hilars, André Bonzel et Rémi Bellevaux, et un garçon au visage émacié, né d'aigle et coupe militaire, un certain Benoît Poulvorde.
C'est vraiment le stress, on est content, mais on n'a pas le temps de profiter, on n'a pas le temps de décanter un petit peu, donc c'est un peu fou. Quoi.
Ça dépasse vraiment parce que ça prend une ampleur, je veux dire. On va quelque part, on en entend parler derrière son dos, dans d'autres langages et tout ça.
C'est insulté. Ou bien je me fais photographier à côté de quelqu'un en train de faire ça, ou bien on vient me féliciter 10 fois en me disant « vous êtes fou ». Quelque part c'est amusant, ça fait plaisir, on a tous rêvé. Ouais. Mais à la fois aussi ça fait très peur, c'est de se dire, on a l'impression parfois qu'ils n'ont pas vu le même film. Ils vont peut-être se rendre compte que c'est pas le nôtre, et puis c'est toujours le même titre. Donc...
C'est arrivé près de chez vous. Voilà le titre de ce film que le tout-puissant Cannes ne tarde pas à qualifier d'OVNI. Pour le trouver, nos trois comparses sont inspirés de l'intitulé de la rubrique « Fait l'hiver du soir », le quotidien belge de référence, « Les chiens écrasés ». En noir et blanc, dans un décor urbain typiquement belge, ciel bas et briques rouges, on suit le quotidien de Ben Patard, tueur professionnel. Professionnel, mais pas tueur à gage. Non, pas au service de je ne sais quelle organisation criminelle. C'est un tueur freelance. Autrement dit, à son compte, qui gagne sa vie en tuant des kidams dont il détrousse ensuite les cadavres. Ses cibles favorites, les petits vieux et leurs matelas qui cachent leurs maigres économies. Il les repère en désinguant régulièrement des facteurs, en fin de mois, quand les retraités touchent leur pécule. une vraie organisation. Son activité immorale, Ben Notwer la théorise. Certes, il s'en prend aux vieillards des classes populaires, mais c'est pour durer dans le métier. Disons qu'il tue utile.
Prends le crime de la guerre, par exemple. Hein? Le crime des toilettes. De quoi on a parlé dans les journaux? De qui? Allez, de qui on a parlé dans les journaux?
Du dentiste.
Du mécanicien dentiste. Mais madame Pipi, on n'en a pas tiré une ligne. Pas une ligne, mon vieux, rien. Un petit quidam, ça ne fait pas de veille. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici ma bande sardine, j'aime autant te dire qu'on te mettra à les mettre en boîte, hein.
Ben Notwer ne soliloque pas. S'il déroule sa vie, ses méthodes, ses trucs et ses astuces d'assassin, c'est parce qu'une équipe de tournage s'intéresse à lui. Il y a Rémi qui l'interviewe et André qu'on devine derrière la caméra. Un preneur de son complète l'équipe. C'est le pitch du film. On assiste à la réalisation d'un documentaire sur un tueur de petites gens. C'est arrivé près de chez vous. Vraie fiction est un faux documentaire, un documenteur. Ce style lancé par Agnès Varda en 1980 et que ces jeunes Belges dynamitent dans des litres d'hémoglobine. La forme du faux reportage est aussi dictée par les conditions de réalisation du film, fait de bouts de ficelle et qui n'aurait presque jamais dû voir le jour. Au commencement, il y a une bande de potes avec un trait d'union, Rémi Bellevaux. Dans la famille Bellevaux, tout le monde a un penchant pour l'art. Ses frères, Lucas et Bruno, deviendront respectivement réalisateurs et metteurs en scène. Mais pour l'heure, Rémi est étudiant à l'INSAS, la célèbre école de cinéma de Bruxelles. Il y sympathise avec André Bonzel, un Français venu apprendre la réalisation dans la capitale belge. Quand il leur faut monter un court-métrage dans le cadre de leurs études, Rémi présente à André l'un de ses amis d'enfance, Benoît Poulvorde. Ce dernier a grandi à Namur, comme Rémi. Ils ont fréquenté ensemble la section dessin d'un lycée de la ville. Rémi ne se sent pas à l'aise dans la direction d'acteur professionnel. Alors Benoît s'y colle, pour son pote. De cette première association, naît un mini-film loufoque, parodie de films de super-héros. En l'espèce ici, un certain Daniel Daniel. Le court-métrage s'intitule « Pas de C4 pour Daniel Daniel ». Titre incompréhensible pour un nom belge et qui pourrait se traduire en français par « Daniel Daniel ne connaît pas le chômage ».
Lorsque l'intelligence se mêle à la perspicacité et à la ruse, il en résulte des hommes d'une stature peu commune. Ces hommes, on les appelle les super-héros. Daniel, flibustier sidéral, notre héros national revient dans une super aventure intitulée « Pas de C4 pour Daniel Daniel ».
Dickinson !
Le court-métrage tourne dans le petit festival de Wallonie. André et Rémi terminent leurs études à l'INSAS et l'envie les démange de rééditer leur collaboration. Et avec ambition, cette fois, ce sera un long métrage. Assurance de la jeunesse oblige, ils se disent qu'un long, ce n'est finalement que 4 ou 5 fois un court. Mais ils n'ont pas un seul franc belge devant eux. Alors ils bricolent. L'idée du fort portage est bon marché, il peut être tourné dans les rues de leur environnement habituel. Alors va pour le fort portage. Le quartier de la Tulipe, dans le centre de Bruxelles, par exemple, sert de décor à plusieurs scènes. Il a été choisi parce que Rémi Bellevaux habite à 3 pas de là. Et comme les 3 réalisateurs, cadreurs, scénaristes, acteurs n'ont aucune équipe technique à disposition, ils transportent tout le matériel eux-mêmes. Donc autant tourner près de chez vous. Et quand ce n'est pas dans la rue, ils se font prêter les appartements d'amis pour les scènes d'intérieur. Les 3 compères attendent parfois des semaines que les lieux se libèrent. Résultat, le tournage s'étale sur 18 mois. Ce délai tient aussi aux difficultés qu'il rencontre à rassembler de l'argent pour acheter de la pellicule. Alors André vend ses meubles, Rémi emprunte à ses parents. Le film, au total, aura coûté 15 000 euros, principalement les bobines. Quant aux acteurs et aux actrices, second rôle, parfois très éphémère, évoluant autour du serial killer Ben et de la fausse équipe de tournage, ils sont pratiquement tous des amis ou des membres de la famille du trio. Les mamans de Rémi et de Benoît sont ainsi de la partie. Et après la première projection, les journalistes s'interrogent. Au vu de la violence du film, qu'en ont pensé les mères ? Réponse à Cannes de Rémi Bellevaux et de Benoît Poulvorde.
Il y a vos mères qui jouent dans le film. Vos mères sont au courant de votre parcours ici. Est-ce que les mères ont vu le film ?
Non. Enfin, moi, ma mère a vu le film, quoi. Donc elle est même venue à Cannes voir le film. Je crois qu'elle a été très surprise et qu'elle s'est souvent caché les yeux, quoi. Et qu'elle a traité Ben de salaud.
Conflit de génération ?
En quelque sorte.
Et moi, pour ma part, la mienne ne l'a pas vu et... Maintenant, je vais bien être obligé de lui montrer. J'avais prévu au départ de ne pas lui montrer, pensant que ça ne ferait pas trop de bruit. Ce serait une petite sortie discrète dans une petite salle en Belgique. Et maintenant, avec tout le bazar qu'il y a autour de nous, c'est impossible que je lui dise « ne viens pas le voir », donc elle devra bien le voir. Au départ, on avait pensé couper certaines scènes, l'édulcorer pour nos parents, mais maintenant, c'est plus possible.
Couper certaines scènes, tu parles. Pour le rendre regardable par n'importe quel public, il faudrait l'amputer au moins de moitié. Étranglement, balabou portant, coup du lapin, hurlement sur une vieille dame cardiaque, de très nombreux moments bousculent le spectateur sensible. 33 morts sur 1h30 de pellicule, pour la plupart relativement âgés, parce que, selon les mots de Ben lui-même, les jeunes couples s'appuient la misère. Et lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Mais le tueur n'épargne pas non plus un enfant quand l'occasion se présente. Même si, comme Ben le souligne auprès de Rémi, un enfant, théoriquement, ce n'est pas solvable. À ce décompte macabre et provocateur s'ajoute un viol collectif auquel participent les soi-disant documentaristes, abandonnant leur caméra pour suivre leur sujet au plus près, si je puis dire. Le faux documentaire prend alors un tour carrément sordide. Et à la sortie du film, les spectateurs cannois divisés s'avouent désarçonnés.
C'est très déroutant, très déroutant. C'est le reality show un peu de la télévision, enfin exagéré, complètement exagéré. Et avec beaucoup de... C'est à la fois très drôle parce qu'il y a de l'humour. Et en même temps, dès qu'on arrive, tout de suite derrière, il y a des images qui sont très fortes, très lourdes, insupportables. Et on ne sait plus quoi penser, quoi, en fait.
Bonjour, j'aimerais savoir comment vous avez trouvé ce film.
Curieux.
C'est très bon au début parce que c'est comique, mais après ça tombe dans l'orange mécanique de Kubrick. Hein.
Formidable. Formidable, c'est une dénonciation humoristique, mais très lucide sur la violence, sur le cinéma de la violence, sur la violence dans le cinoche. Et c'est un carnaval proche de l'esprit d'Harakiri qu'on connaissait dans le temps un peu partout en Europe.
Dans les papiers de la presse écrite, la tonalité majoritaire est davantage celle de la divine surprise amusée. Dans les cahiers du cinéma, par exemple, on peut lire, dans le style ampoulé de cette publication, « La réussite de ce film est de mener le spectateur au-delà du dispositif initial de ce vrai faux reportage qui aurait pu tourner très vite à l'exercice de style. » Comprenne qui pourra. Le magazine Actuel, lui, est bien plus clair. « Enfin un film qui pèse, hachant la vertu en morceaux, fouillant délicieusement nos nerfs et notre cerveau. Un pur délice antimédia, zigzagant frontières de la morale, sombre à faire peur, cruel, dégueulasse à mourir de rire. Un conte de fées pour époque incrédule, mais sans fées, l'ogre est roi. » Dans le soir, on se montre encore plus dithyrambique avec les enfants du pays. On pense au Klisowski de Tunture à point, mais un Kieslowski égaré en Brugeland, gagné par un cynisme en béton armé, très fin de siècle, qui ne fait pas de détails, tuerait son père et sa mère pour un bon mot, et déroute sans cesse le spectateur, en alternant la vulgarité la plus énorme et de brusques saillies de poésie et de sensibilité. Un film malin et truculent comme une blague de Quick et Fluck, sauf qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Bref, la critique jubile, sauf l'acrimonieux Télérama, qui ne voit, je cite, qu'une bande de potaches hilares qui tournent en rond avec leur probac facile et se vautrent dans le pipi caca vomi.
Les lipides saturés et les musclés, les vibros en plastique, les piles écologiques. les seins, gonfler les silicones, péter les anneaux à l'estomac, les fils à papa, ça plaint pour lui, y a trop de tout, mais rien pour nous, ça plaint pour nous, y a trop de tout. Les chanteuses et les coiffeuses, les régimes, dit-titi et les cartes, cartes de crédit. Liberté, sécurité, ma télé, ma santé. Les artistes, les anarchistes, les dictateurs et leurs coiffeurs, ça plaint pour nous.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du film s'est arrivée près de chez vous.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Voilà, la polémique est lancée. C'est arrivé près de chez vous, délire potache qui s'abîme complaisamment dans la violence et dans lequel on pressent quelque chose d'immonde, écrit Le Monde. Ou brûlot efficace contre la télépoubelle, celle qui, pour reprendre les mots d'André Bonzel, prétend filmer le réel alors qu'elle le met en scène. En ce début des années 90, l'époque est au reality show. La télévision raffole. En France, de Témoin numéro 1 à Perdu de vue, en passant par La Nuit des Héros, il cartonne. Les trois de cette arrivée près de chez vous visent évidemment un programme belge, une émission déjà culte, Striptease. C'est sur les écrans de la RTBF que ce programme débarque au tout début de l'année 85. Avec une promesse, apporter des témoignages bruts aux téléspectateurs, sans voix off, ni commentaires. Au fil de ces 485 épisodes, de sacrés personnages ont été filmés dans leur intimité, jusqu'à parfois s'attirer des accusations de voyeurisme. Pour le réalisateur liégeois Luc Dardenne, Striptease évoque le film « On achève bien les chevaux ». Traduction « On fait danser les prolétaires et les chômeurs et la bourgeoisie vient regarder ». Avec leur C'est arrivé près de chez vous, la bande porte la critique encore plus loin. Et son film pose une question capitale. Jusqu'où peut-on aller pour produire des images frappantes? Des images qu'on ne peut pas voir sans ressentir un profond sentiment de malaise. Benoît Poulvord l'explique quelques semaines après l'aventure canoise, sur un plateau de la RTBF, productrice de Striptease.
Le tueur, c'est un prétexte, c'est une manière pour nous d'amener une réflexion sur les médias, sur le statut de la caméra, sur le statut de l'image par rapport aux gens et par rapport aux réalisateurs.
Ouais, justement, le style du film rappelle très fort Striptease dans le fond, dans la forme.
Ouais, ouais.
C'est un genre de reportage que tu voulais dénoncer?
Qu'on voulait dénoncer c'est-à-dire que oui, nous, on n'avait pas trop l'esprit... On n'aime pas la démarche de Striptease en soi. Parce que je trouve qu'on peut faire dire n'importe quelle connerie à n'importe qui, si c'est bien monté, Je veux dire, je trouve qu'ils sont jamais très honnêtes par rapport à ce qu'ils demandent aux gens. Je veux dire, ils disent, quand on a l'impression dans Striptease qu'ils savent déjà comment ils vont réaliser leur film. Donc, et on a l'impression qu'ils ne le disent pas. Genre, quand un type passe à la télé après Striptease et qu'il a l'air d'un con, il a l'air d'un con pour quelques années. Hein.
Après cette parodie de Striptease, les trois comparses incriminent ceux qui filment autant que ceux qui se laissent filmer. Pour eux, la télé voyeuriste est un système qui n'existerait pas sans celles et ceux qui la regardent, qui la plébiscitent même, avec des chiffres d'audience flatteurs. Tout au long du récit, Hilary des Saïd et Ben Patar se réjouissent d'être choqués par ces scènes de meurtre de sang-froid, puis l'inconfort se creuse. En tirant leur idée jusqu'au bout de son fil, les réalisateurs forcent le spectateur à s'interroger. Quelle est ma part de responsabilité? Ces crimes atroces sont filmés, ont-ils été commis uniquement dans le but de nourrir la caméra? Les trois réalisateurs avaient bien cette intention, provoquer et gêner. Ils l'expliquent en trio une nouvelle fois pour les caméras des RTBF.
Ce qu'on voulait aussi, c'est que, c'est que le film ne soit pas simplement une parodie de la télévision avec un tueur. On voulait que ça soit comique et puis que ça bascule et que ça mette les gens mal à l'aise et au moment où ça bascule. Ouais, ça, on a réussi parce qu'il y a des gens qui sont favorables au basculement, ouais. Ça se dit, oui. Et puis il y en a d'autres qui n'acceptent pas du tout que ça bascule. Ils auraient préféré qu'on continue à rire et puis qu'on s'amuse.
Ils ont jeté idée noire.
À la limite, ils auraient demandé une suite. Hein. Faites-en un deuxième et puis faites-tu aller tuer là-bas et changer de pays.
La violence et les scènes difficiles contribuent à la force du film et à l'impact que sinon le film serait quand même, il passerait beaucoup plus inaperçu à mon avis. Je pense.
Un peu plus mou quoi.
Le côté truculent de Ben Hotwer accentue évidemment le malaise. Il apparaît drôle, plein de verve, même si certaines de ses tirades sont profondément racistes ou sexistes. Même sur ce ton parodique à l'extrême, difficile d'imaginer les mêmes répliques aujourd'hui. Son vocabulaire précis et son accent très marqué, mélange de bruxellois et du parler de la Wallonie profonde, dont sont originaires les Namurois Rémi et Benoît, rendent le personnage cocasse et dans le fond assez sympathique. Oui, on rigole de ses délires, portés par la gestuelle de Poulvorde, comme dans cet extrait 100% représentatif de l'individu.
Où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein? Je suis désolé, allez. Hein? Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait?
Non.
Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. J'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques. C'est les briques rouges.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin, dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric.
Des passages du même acabit, le film en est rempli. Jamais Ben Hotwer ne ferme son clapet. Gestes amples et bouche en cul de poule, il pratique l'envolée lyrique en champion hors catégorie. Toutes ces répliques sont la colonne vertébrale du caractère culte de cette arrivée près de chez vous. Le talent d'acteur de Benoît Poulvorde et sa justesse devant la caméra peuvent donner l'impression que ces moments d'anthologie sont le fruit d'improvisation géniale. C'est pourtant exactement l'inverse. Chaque tirade est écrite. On n'improvise pas parce que la bobine est trop chère. Dans tout le film, seule la scène célébrissime de la recette du cocktail du petit Grégory est le fruit du délire instantané de Poulvorde. Mais pour le reste, tout figure noir sur blanc dans le scénario. Comme le fameux « Reviens gamin, c'était pour rire » ou l'inoubliable « Ode au pigeon »« Oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes » ou encore la reprise du classique des classiques belges, « Le plat pays » dans cette scène d'anthologie.
Qu'aujourd'hui le choix de monsieur ne soit pas des plus judicieux. Si je peux juste me permettre,
Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Allez.
Avec la mer du Nord, le long du golfe clair,
et des vagues dodues. Pour arrêter les vagues et des poissons volants, volants comme des goélands. Et des planctons, en veux-tu, en voilà, et des saumons rouges surgissant de l'au-delà. Et les méduses amères, et les algues pourpres, et les goémons d'hiver. Rien, non, rien ne m'empêchera de citer ton nom. Mère, 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 cruelle marâtre amère, et les eaux qui me...
Pendant ce temps, sur un autre bord de mer, La folie s'est arrivée près de chez vous, ne faiblit pas. Le Festival de Cannes s'achève dans un feu d'artifice pour Rémi Bellevaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde. Avec leur film Fait maison, ils ne remportent pas moins de 3 prix. Le prix de la critique internationale, le prix de la Société des auteurs et le prix spécial de la jeunesse, bien que le film soit interdit aux mineurs. Alors, c'est légitime, la Belgique, ce pays plein d'humour, les accueille en héros. Eux qui ont ramé pendant presque 2 ans pour tourner leur film, qui ont raclé les fonds de tiroir et sollicité tous leurs amis pour en financer la post-production, quelle histoire! En arrivant à Cannes, ils n'avaient aucun distributeur, ils n'avaient même pas créé de société de production. Eh bien, ils repartent en ayant vendu le film à plusieurs pays. Un véritable conte de fées. Mais de courte durée. Le distributeur avec lequel les 3 compères ont fait affaire est en fait un escroc. Malgré le 500 000 d'entrées à la sortie du film en France, malgré le carton en Belgique, 250 000 spectateurs pour 4 millions de francophones dans le pays, les réalisateurs ne touchent pas un copec. Alors, la belle entente des 3 amis tourne au vinaigre. Rémi Bellevaux est particulièrement marié. Il est l'auteur de l'idée originale, celle du documentaire sur un tueur, et il s'est occupé de la mise en scène et de la direction d'acteurs. Il regrette de ne pas être crédité comme seul réalisateur. Bonzel, lui, s'est assuré du cadre, de la lumière, mais était aussi impliqué dans la mise en scène. Quant à Benoît Poulvorde, il a beaucoup participé au scénario et surtout, le film repose sur sa performance d'acteur. Les relations entre les 3 amis se tendent, il n'y aura jamais de nouveaux projets à 3. Rémi Bellevaux, la gueule d'ange aux cheveux blonds bouclés qui cache sa timidité dans de grands éclats de rire, veut faire du cinéma. Les producteurs se pressent, mais attendent tous un « C'est arrivé près de chez vous » bis, alors que Rémi, lui, a des projets à gros budget. Il rêve de science-fiction délirante. Il ne signera jamais un 2e film, non. Il bifurque dans la pub, devient l'un des réalisateurs les plus demandés du secteur, signe des spots remarqués et reçoit plusieurs prix internationaux. Jusqu'à ce jour de septembre 2006.
La mort de Rémi Bellevaux, le frère de Lucas, c'est ce réalisateur belge qui avait lancé en 92 la carrière de son compatriote Benoît Poulvorde avec le formidable C'est arrivé près de chez vous, devenu depuis film culte. Rémi Bellevaux avait 40 ans, on ignore encore la raison de sa disparition.
Rémi s'est jeté sous un train. Même si certains journaux l'insinuent sournoisement, le drame n'a aucun lien avec C'est arrivé près de chez vous et ses embrouilles financières. Mais la nouvelle glace les fans de cinéma. Benoît et André sont effondrés. Poulvorde le dira quelques années plus tard, lors d'une rare diffusion publique de C'est arrivé près de chez vous en 2015. Ce film a porté malheur à tout le monde. Il a porté la poisse. Je ne l'ai jamais revu à cause de la mort de Rémi. Le comédien porte cette culpabilité, celle d'avoir le seul bénéficié du souffle du film pour sa carrière, parce que si C'est arrivé près de chez vous reste un ovni de cinéma, si son style a marqué une génération de cinéphiles, il a surtout été la découverte d'un acteur, l'un des plus demandés du cinéma francophone. André Bonzel raconte que le talent de Poulvorde a tout de suite éclaboussé la pellicule. Après chaque journée de tournage, il se passe les rushs du jour, sans le son. Eh bien, même muet, même sans cet inoubliable accent, la présence de Poulvorde à l'écran est magnétique. L'autodidacte, qui affirme avoir tout appris de l'art de la comédie en observant son épicière de mer, faire le show dans sa petite boutique de Namur, se lance prudemment dans le monde du spectacle. Au lieu d'accepter les rôles de serial killer déjantés qu'on lui propose, sans originalité, Benoît Poulvorde se lance, après mai 92, dans l'écriture d'un spectacle seul en scène, dirigé par un autre Bellevaux, Bruno, l'un des frères de Rémy. Il régale ensuite les téléspectateurs de Canal+, période grande époque, avec son hilarant personnage à sketch, Monsieur Manhattan. En 97, 5 ans après l'explosion C'est arrivé près de chez vous, Poulvorde retrouve le grand écran avec Les Randonneurs. Honorable succès commercial. Débute alors une longue carrière pour cet acteur belge revendiqué. Une première, comme l'explique le critique cinéma historique de la RTBF, Hugues Daillet.
C'est le premier acteur belge qui peut imposer sa nationalité belge dans le cinéma français. Il y a eu énormément d'acteurs belges avant, depuis les années 20, les années 30.
Mais c'était des acteurs francophones. Lui, c'est un acteur belge.
C'était des acteurs belges, mais très vite, ils gommaient ça de leur carte d'identité, où ils disaient qu'ils venaient du Nord.
C'est ça.
Victor Francen, Fernand Ledoux, tous ces acteurs. Voilà. Mais même, je me souviens de l'anecdote de Marie Gillin, qui perçait un tout petit peu avant Benoît Poulvorde. Mais Daniel Toscan du Plantier, qui s'occupait d'Unifrance, dit « Arrête un petit peu de dire que tu es belge, tu es là pour faire la promotion du cinéma français, tu tournes dans des films français. » Et donc, effectivement, par instinct de survie, j'ai envie de dire, tous ces acteurs étaient très très vite assimilés dans la grande famille du cinéma français. Poulvorde, jamais.
Benoît Poulvorde et son naturel confondant tracent la voie d'autres actrices et acteurs belges francophones. Cécile de France, Elostina Muroise, Virginie Efira, François Damiens, Olivier Gourmet. Ils sont désormais des stars en France, sans avoir eux non plus renié leurs origines. Le cinéma belge lui-même entre alors dans une période dorée, assumant son côté déjanté, décalé, à côté de la réalité. Il fait aussi le bonheur des cinéphiles français. C'est arrivé près de chez vous, remise ainsi aux oubliettes les mauvaises blagues sur les Belges, ces gens qui ouvrent les hublots d'un sous-marin pour prendre l'air, par exemple. Non, on est passé à autre chose. Désormais, coulitude rime avec belgitude.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du film C'est arrivé près de chez vous. Notre invité, André Bonzel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des trois réalisateurs de C'est arrivé près de chez vous. D'abord, qu'avez-vous ressenti à l'écoute du récit d'un pan entier de votre vie professionnelle et artistique, tout de même, peut-être le plus important de tous?
Oui, moi j'ai tendance à garder le meilleur, donc je garde Cannes, le succès et tout ça, et après, c'est un peu parti en sucette. Hein,
donc... Oui, même de façon dramatique.
Ouais.
La légende autour de cette arrivée près de chez vous voudrait que le film soit un film de fin d'études de l'INSAS, donc c'est l'école de cinéma bruxelloise. Comme nous l'avons raconté, ce n'est pas le cas. D'où cette rumeur est-elle partie, votre avis ?
Je pense que c'était... Parce qu'il existe un fin d'études... nous, on était assez mal vus à l'école. Et après avoir fait Pas de C4 pour Daniel, complètement en dehors de l'école, qui était tourné en scope 16, donc en format large, avec pour faire du vrai cinéma. Rémy, pour son fin d'études, voulait faire un film de science-fiction qui était aussi en scope et qui aurait dû être tourné dans l'usine où on a tourné la scène de la gourmette, l'usine électrique de Drogenbos, qui serait devenue un vaisseau spatial. Et en fait, le directeur des études de l'INSAS, qui ne nous aimait pas du tout, a dit « c'est beaucoup trop ambitieux, on ne peut pas faire un film en scope et tout », alors qu'on l'avait déjà fait. Et il a refusé à Rémy de tourner son fin d'études, ce qui fait qu'il s'est retrouvé sans projet. Et comme parallèlement à ça, nous, on préparait cette arrivée, qui n'avait rien à voir avec l'école... qu'on produisait nous-mêmes en dehors et avec justement notre propre matériel, il s'est dit « je vais tourner quelques scènes et je vais faire un petit montage comme ça ». Il a utilisé les rushs, les mauvaises prises et tout pour faire ce film-là, qui existe, qui s'appelle « Génération Raymond », du nom du directeur de l'INSAS de l'époque, qui s'appelait Raymond Ravard. et qui a tourné un peu dans les festivals et tout. Donc c'est, mais il y a plein de choses qui circulent, qui sont toujours fausses. Par exemple, à Cannes, Benoît a dit que De Niro allait faire un remake, enfin qu'on allait faire un remake du film avec De Niro. Et il a dit ça en plaisantant, sans se rendre compte que, en fait, à Cannes, les choses sont sérieuses, quoi. Et c'était repris le lendemain dans la presse et c'est resté encore.
C'était un fantasme, en fait. Ouais. Y compris pour la presse. Pourquoi étiez-vous mal vu à l'école?
Je sais pas exactement, parce qu'on voulait faire des comédies, on était un peu rebelles et tout ça. Ouais. Moi, en image. J'avais un peu remis en cause les profs qui travaillaient à la RTB, qui faisaient de la télé, tout ça, et c'était un peu... ouais, on était mal vus, quoi.
Alors, justement, comment Lisa s'est-elle réagi d'abord au thème du film, parce que quand même, vous critiquez férocement l'émission de la RTBF, Striptease. Or, du Striptease, c'est ce qu'on vous incitait à faire à l'école de cinéma, non?
Oui, il y avait tout un courant de profs qui faisaient du documentaire social. Et c'est d'ailleurs un courant même du cinéma belge, le documentaire social, Henri Storck, le Borinage et tout, et qui est d'ailleurs tout à fait noble, hein, c'est un film, un cinéma humaniste et tout. Mais nous, ça ne nous intéressait pas, on avait vraiment envie de faire des comédies. Et l'INSA, ça n'a pas trop réagi sur le fond, mais c'était sur le fait qu'il y a ce film qui existe, qui a essayé de se réapproprier et dire oui, c'est un film de l'école, justement, en okay, plus, donc. Comme il y avait ce fin d'études. Mais heureusement, on a ressorti les factures de location, on a tout montré en disant c'est notre film, ça n'avait rien à voir.
Ben oui. Alors comment ce film, que vous considériez plutôt, Rémi et vous, comme une carte de visite pour convaincre les producteurs, c'est quand même la première étape, a-t-il atterri à Cannes? Quand même, Festival de Cannes, plus grand festival de cinéma du monde.
Ça, c'est Lucas, le frère de Rémi, qui nous avait dit vous devriez l'envoyer à la semaine de la critique. Et ce qu'on a fait quand on était en cours de montage, on a envoyé de bout à bout, pas mixé, juste le son direct. Et ils ont aimé, ils nous ont dit, on vous le prend, ne le montrez à personne d'autre. Et nous, on ne savait pas qu'il y avait une espèce d'échelle de valeur comme ça, entre les sections off et tout ça. Et donc on s'est dit, génial, on va à Cannes et tout. Ils nous ont fait une lettre. Et d'ailleurs, ça nous a aidé à terminer le film, parce qu'il fallait faire le gonflage en 35, il fallait faire les sous-titres et tout ça. Parce qu'on avait demandé des subventions avant, on s'était fait jeter. On avait essayé même le CNC en France en court-métrage. Et on s'était fait jeter aussi. Et voilà. Et là, comme le film était sélectionné, qu'on avait cette lettre, la communauté française en Belgique nous a payé le gonflage. Là, on a la subvention pour pouvoir faire le gonflage.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti à Cannes? Quand même formidable. Vous n'êtes pas connu, c'est un premier film, et on vous célèbre à Cannes. C'est complètement fou. Je rappelle que Cannes, c'est quand même la mecque du cinéma mondial.
Ouais, c'était fou. On s'était un peu... en plus, on venait de terminer le film, donc c'était vraiment... On était encore en plein dedans, c'était assez compliqué. On n'avait pas de société de production. On l'a produit nous-mêmes, mais il n'y avait rien de... on était emporté, on était quand même super content. On est venu avec tous nos copains, tous les gens qui ont travaillé sur le film, et c'était quand même une joie, même si ça nous échappait, en fait. C'était ça qui était à la fois très étrange, c'est que le film vous échappe complètement. Mais le fait que le film ait du succès, surtout que ça passait effectivement dans une salle qui est tout petite, qui faisait 150 places, l'auditorium Jean-Louis Borry dans le Palais, qui je pense n'existe plus, et les gens, dès la première projection, ne pouvaient pas rentrer.
C'est allé exponentiellement.
Ouais. Je me souviens que le distributeur suisse du film avait acheté le film sans le voir, sur WeDire, et il a voulu assister à une projection pour le marché du film dans une salle de cinéma, parce que les films repassaient. Et là encore, c'était plein, et il pouvait pas rentrer. Il dit, mais j'ai acheté ce film, c'est à moi, je pourrais
le voir. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. Est-ce que d'autres, des réalisateurs connus, des grands réalisateurs invités à Cannes ont vu votre film? Est-ce que vous avez eu des échos? Parce que pour des jeunes qui débarquent comme ça, c'est important.
Ouais, il y avait plein de... Tarantino qui avait vu le film, qui était allé le voir à cause de l'affiche. Mmh. Mais après, je sais pas quel... Après, c'est plus dans les festivals où on est allé. On a rencontré De Palma à Toronto.
Et qu'est-ce que vous disiez, ces gens-là?
De Palma, il se marrait énormément pendant la projection. D'ailleurs, quelqu'un lui avait dit arrêtez et tout ça. Et puis il s'est retourné, ils ont vu que c'était De Palma. Et mais non, oui, le film a eu après. En plus, c'est un film qui montre que c'est possible de faire un film avec peu de moyens. Oui. Et ça.
Bien sûr.
Ça plaît, en fait, puisqu'on se dit oui, c'est possible, quoi.
France Inter. Affaires sensibles.
André Bonzel, après la belle histoire de cette arrivée près de chez vous, arrivent les embêtements et puis un drame. Concernant les embêtements, c'est cette histoire d'argent que vous n'avez pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quand on a fait le film, c'était vraiment. On l'avait fait vraiment comme une carte de visite. On avait fait le cours avant, on s'était dit on va faire un long. Et on n'avait pas. On n'y connaissait rien. On était vraiment. Des petits puceaux en cinéma. Hein. On avait 25 ans, c'était le premier film, et on l'avait autoproduit, on l'a produit nous-mêmes. On savait fabriquer un film, mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire après avec. Le vendre, le commercialiser, tout ça. On n'apprend pas ça dans une école de cinéma. En tout cas, on ne nous l'apprenait pas.
Et ça sert à quoi, l'école de cinéma?
On a fait confiance à des gens avec qui on n'aurait pas dû faire confiance. Et le type, l'escroc notoire, qui est un vendeur, c'est un métier particulier qui vend le film à l'étranger, vendeur à l'étranger. Ce type était à l'époque vice-président d'Unifrance Film, l'organisme qui assure la promotion du cinéma français à l'étranger. Donc on lui faisait entièrement confiance. Et la dernière fois qu'on s'est vu avec lui, c'était chez le juge d'instruction. Voilà. On a signé des trucs qu'on n'aurait pas dû signer. On n'avait pas. Ça s'est terminé par. On a eu plein de procès. Ça a duré des années. On a dépensé plein d'argent en avocat de cinéma et tout ça. On a gagné les procès. Le type a été condamné, mais on n'a jamais revu l'argent. Ils sont mis en faillite et tout ça. Et c'était vraiment. C'est un goût amer parce qu'effectivement, le film a généré beaucoup d'argent. Oui. Il a fait plein d'entrées. On s'était fait un peu voler le film et c'était vraiment difficile, ça, ouais.
Et ces embrouilles financières ont-elles tendu les relations entre vous ?
Je pense, oui, parce que déjà, effectivement, le fait où on avait co-signé le film, on avait fait comme le cours, on s'est dit on va faire comme le cours. Rémi qui avait l'idée était un peu. Il aurait voulu, je pense, signer le film tout seul. Moi, je revendiquais une partie de la mise en scène aussi. Par exemple, le choix du noir et blanc, c'était moi. Rémi voulait le faire en couleur. Mais après, on prenait les décisions ensemble. C'était vraiment de concert. Ouais. On ne pensait pas que le film serait aussi vu. On l'avait vraiment fait. On s'est dit, on va aller dans les festivals et tout. Mais on ne pensait pas qu'il serait distribué comme ça. Et on n'avait pas réfléchi à l'après, quoi. Ouais. Donc, on voulait faire un film sur le cinéma. C'était ce qui est incroyable, c'est que c'est une mise en abîme.
Oui.
Parce que le film raconte un film en train de se faire et des gens fauchés qui font un film. Et c'était notre histoire. Il y a beaucoup de nous-mêmes dans le film.
Dernière chose concernant la fin un peu en queue de poisson, le suicide de Rémi. On va pas trop y revenir d'abord parce que c'est douloureux. Puis en plus, le suicide est quelque chose de très intime, hein, difficile à expliquer. Juste, est-ce que vous confirmez qu'apparemment ça n'a rien à voir avec le film ?
Ça n'a absolument rien à voir avec le film. C'était pour des histoires personnelles dans sa vie privée et ça n'a rien à voir avec le film.
En 2021, vous avez réalisé un autre film titré « Et j'aime la fureur ». On va d'abord en écouter un extrait, puis on en parle.
Attention, action. Tu sais, je pensais à ça. Ça m'a fait quelque chose de voir ces vieux films. Parce que tu sais, c'est un peu comme une mémoire quand je regarde ces images. Une mémoire, une case dans ma tête que j'avais un peu oubliée. Au fond, le cinéma, ça sert peut-être à ça, je ne sais pas. Et je me rends compte que. Pas coupé parce que j'ai été trop long. Attention, action. On pourra voir, nous. Tu m'imagines dans 10 ans, quand on se verra tous comme ça. Toi qui auras grossi, Rémi. André, lui, peut-être qu'il sera devenu chauve. Peut-être qu'on sera devenu des casters ou bien des man-bailles. Je sais pas. Vous êtes en train de me bouleverser avec votre truc. Hein. Ah ouais, alors.
Ah oui, c'est une messe fusionne.
André Bonzel, je confirme, vous n'êtes pas devenu chauve. Mais au-delà de ça, quel est donc ce film autobiographique?
Et J'aime la fureur, c'est un film autobiographique où je raconte ma vie comme si ça intéressait les gens, mais avec les images des autres, hein, parce que je collectionne les films amateurs depuis que je suis tout petit. Et donc l'idée, c'était ça, c'était raconter sa vie avec les images des autres pour voir si ce qu'il y a en commun, enfin ce qu'on partage. Et d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que les gens se retrouvent, c'est très intime, puisque justement, et donc cet extrait, je raconte par exemple l'histoire de C'est arrivé un peu, il y a une petite partie très courte dessus, mais les gens se retrouvent dans le film comme si c'était leur histoire, en fait.
Et pourquoi vous êtes si attaché au film amateur ?
Parce que je pense que c'est du vrai cinéma. C'est d'ailleurs les amateurs, ils se posent les mêmes questions. Où mettre sa caméra? Qu'est-ce que je vais filmer quand je démarre le plan et quand je coupe? Et en fait, ces films ont vraiment quelque chose de très particulier et qui est la vie, en fait.
Tout simplement.
Tout simplement, ouais.
Ouais. Vous avez des projets de films?
Oui, et d'ailleurs, je dois refaire un film avec Benoît. Quand il a vu C'est arrivé, il était un peu bouleversé. Il m'a dit, faut qu'on refasse un film. Et moi, j'avais écrit un film pour lui. Et voilà, on va faire ça. Et puis, je devrais faire une suite aussi à Et j'aime, parce que j'ai continué à trouver des films d'amateurs et notamment des films incroyables. Et je vais continuer, voilà.
On salue Benoît Poulvorde, qui, je crois, est un auditeur. Il aime beaucoup la radio.
Oui.
M'avez-vous dit. J'espère qu'il aime la nôtre. Le cinéma belge, formidable, le cinéma belge. Est-ce que vous pensez que la réussite de ce cinéma, vous en êtes à l'origine? Alors, même si ça doit secouer votre modestie.
À l'origine, sûrement pas. Mais en tout cas, ça a marqué une date. Et encore une fois, ça montrait qu'on pouvait faire un film avec peu de moyens. Et ça, c'est salutaire pour un cinéaste dont, parce que la grande partie du temps, c'est de trouver les moyens de faire le film. Oui. Un film, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec beaucoup d'argent. Et là, on montrait que voilà, c'était possible de faire avec peu de choses. Donc,
bien, ce sera le mot de la fin, hein. comme un espoir, une morale. On peut faire des films sans énormément de fric. Merci infiniment, André Bonzel. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le film C'est arrivé près de chez vous, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.